Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Bruno Picard. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Ce soir, j'aimerais vous partager un message court, je l'espère. J'ai 20 minutes devant moi. Pour vous donner le cœur du roi. J'ai passé beaucoup de temps cette semaine à chercher son cœur, chercher ce qu'il voulait dire. Et mon message sur Adulam est prêt, mais j'aimerais le partager après le passage du pasteur Marc, pour ne pas avoir à casser le flot. Et donc ce soir, je vous propose de plonger votre vie avec moi pendant quelques minutes et de rejoindre Jésus-Christ à un moment de sa vie extraordinaire. Et le contexte, c'est lorsque Jésus est en train de prier pour le happy meal du petit garçon qui vient dans la foule. 2 poissons, 5 pains. Et Jésus prie et Jésus offre le pain et les poissons au Père. Et il demande à ses disciples de partager. Et en guise d'introduction ce soir, en guise de première remarque que j'aimerais faire sur ce passage de la vie de Christ, c'est que tes mains sont le point de départ de la visibilité de ce qui est invisible. Christ offre à son Père une prière de reconnaissance et dit « Père, voici le pain et les poissons ». Mais c'est seulement lorsque ces pains et ces poissons sont entre les mains des disciples que le miracle se manifeste dans le monde visible. Nos mains et nos vies sont le point de départ, le point de connexion entre le monde invisible et le monde visible. Nos vies sont les points de connexion ultime entre ce que Dieu veut réaliser et ce que Dieu réalise. Et tant que les disciples n'ont pas pris les paniers de pain et de poissons dans leurs mains, rien ne se passait. Et quand ils ont pris et sont devenus partenaires avec Jésus-Christ, le miracle a eu lieu et la Bible dit que Jésus a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec 2 poissons et 5 pains. Est-ce que tu es prêt ce soir à être un participant actif de la nature divine ? Est-ce que tu es prêt ce soir à offrir tes mains et ta vie pour être un point de connexion entre le monde visible et le monde invisible ? Le monde de l'invisible, c'est le monde de la foi. Là où Dieu est prêt à agir, Dieu agit dans le monde invisible. Son royaume dans le ciel veut venir sur la terre. Toi et moi, nous sommes les points de connexion permettant au royaume de Dieu de se manifester sur la terre. Et vous savez ces choses. Et dans ce contexte-là, Jésus dit ensuite aux disciples, il y a trop de monde là, ce que les gens voulaient faire de lui un roi. Et Jésus se retire sur une montagne seul. Et les disciples, voyant que Jésus ne revient pas, prennent la décision de repartir à Capernaum, prennent une barque et s'en vont. Et dans Jean 6, l'histoire raconte qu'une tempête s'élève et les disciples commencent à avoir vraiment peur. Et Jésus, qui est un homme, 100% homme, 100% Dieu, extraordinaire, a aussi de l'humour et il débarque à côté de la barque en marchant sur l'eau. Personnellement, j'aurais déjà très peur de la tempête, mais si je vois un fantôme dans la tempête, c'est pire, ça ne me rassure pas du tout. Et Jésus débarque et les disciples ont peur. Jésus dit, n'aie pas peur, ce n'est que moi. Et au moment où il dit ça, ils veulent faire entrer Christ dans la barque. Et au moment où ils veulent faire entrer Christ dans la barque, ils arrivent directement là où ils devaient arriver, sur la terre ferme. Miraculeusement, ils sortent d'une tempête et ils arrivent sur la terre ferme. Et nous prenons cette histoire ce soir dans un moment extraordinaire de pur surnaturel. Parce que marcher avec Jésus, ce n'est pas naturel, c'est continuellement surnaturel. Et les disciples sont là et ils suivent avec Jésus-Christ. Et on prend l'histoire dans Jean 6, verset 22. Et l'histoire donc, c'est que les disciples arrivent sur la terre ferme et Jésus est avec eux. Et le lendemain, cette histoire magnifique du miracle et de la multiplication, ceux qui étaient restés sur l'autre rive se rendirent compte qu'il n'y avait eu là qu'un seul bateau et que Jésus n'avait pas accompagné ses disciples, ceux-ci étant repartis seuls. Et entre-temps, notre bateau était arrivé de Tibériade, près de l'endroit où toute cette foule avait été nourrie après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens virent que Jésus n'était pas là, et ses disciples non plus, ils montèrent dans ses bateaux pour aller à Capernaum à la recherche de Jésus. Waouh ! À la recherche de Jésus. Et ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui demandèrent : Maître, mais quand es-tu venu ici ? Comment t'es arrivé là ? Comment ça se fait que t'es là ? Et j'aime comment Jésus leur parle. Jésus est très gentil, très cash, très cool. Il leur dit, vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Je leur dis, vous ne venez pas parce que vous voulez comprendre pourquoi je fais ce que je fais. Vous venez parce que vous voulez être nourris tous les jours, sans faire aucun effort. Jésus leur dit, vous venez vers moi parce que vous voulez que vos besoins soient comblés. Tout ce qui vous intéresse, c'est que vos besoins. Mais vous ne venez pas pour comprendre le sens des signes miraculeux que j'accomplis. Vous savez, les signes ne sont pas les buts. Mais les signes sont les moyens que Dieu utilise pour nous révéler ses buts. Les signes ne sont pas ce que nous devrions chercher. Les signes nous montrent ce que nous cherchions. Les signes de Dieu nous montrent le cœur de Dieu. Mais ces hommes ce soir-là ne voulaient pas chercher Christ pour ce qu'ils faisaient. Ils voulaient chercher Christ parce qu'ils voulaient que Christ les rassasie à nouveau. Et ce n'est pas forcément très mal, d'accord, ce n'est pas un grand péché, mais c'est simplement qu'ils limitaient ce que Christ aurait pu être pour eux. Et ça me parle de notre côté humain, vous et moi. Et en tant que chrétiens, nous pouvons tellement vivre dans notre humanité et devenir prisonniers de notre humanité. Nous pouvons tellement facilement oublier la puissance et le poids de l'évangile, facilement vivre une vie de simple humain comme tous les autres et venir vers Dieu uniquement pour qu'il comble nos besoins, alors que Dieu peut faire beaucoup plus que cela. Et au verset 27, Christ leur dit, travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Et cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père lui en accorde le pouvoir en le marquant de son sceau. Et là, j'imagine la foule, et la foule vient le voir et lui dit, écoutez bien ça, et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous ? Question intéressante ce soir. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous ? Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres ? Et la réponse de Jésus est extrêmement frustrante. Jésus a cet art extraordinaire de répondre totalement à côté de ce que nous voulons avoir comme réponse. Et vous avez vécu ça ? Vous posez une question à Dieu et Dieu vous répond, semble-t-il, à côté. Moïse vient et Moïse dit à Jésus, « Seigneur, qui suis-je ? Qui suis-je pour sauver ton peuple ?» Et Dieu lui répond, « Je serai avec toi. » Non, non, mais Seigneur, d'accord, mais moi, je suis qui ? Je serai avec toi. Et si on ne comprend pas le cœur de Dieu, on pourrait croire que Dieu ne répond pas à Moïse. Et pour ceux qui le savent, c'est comme si Dieu a répondu à Moïse. Dieu a dit à Moïse, « Moïse, tu es celui avec lequel je veux être. » Il y a des réponses de Dieu comme ça qui nous demandent un peu plus de temps pour les recevoir dans notre esprit et avoir une vie qui change. Et ce soir, je veux te montrer quel style de vie tu peux choisir entre un style de vie, quelle œuvre je peux faire, ou un style de vie selon le cœur du Père. Et Jésus répond au verset 29, il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en moi. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres ? Crois en moi. Mais que devons-nous faire pour accomplir les œuvres ? Crois en moi. Il y a beaucoup de chrétiens ont ramené l'évangile de Christ à une liste des choses qu'il faut faire ou ne pas faire. La plupart des livres qui sont les mieux vendus dans le monde sont 7 clés pour le succès, 7 principes pour réussir son mariage, Je pense que personne n'achèterait un livre qui dit 4832 clés pour accomplir sa destinée. 24 754 clés pour plaire à sa femme. Tu dis, je commence même pas à lire le bouquin. Mais la plupart des gens sur Terre aujourd'hui cherchent des livres qui te disent 3 clés pour réussir ton entreprise. La Bible pour les nuls. Neuf clés pour réussir un repas. 12 principes pour réussir ton mariage. 9 principes pour réussir ton éducation. Et il y a plein de choses comme ça. Et ces gens-là viennent ce soir dire à Jésus, Jésus, donne-nous la liste de ce qu'il faut faire. Quelles sont les œuvres? Et si tu peux, en 12 points maximum, parce qu'on est un peu pressé, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire en 12 points pour faire le plan de Dieu? Jésus répond, crois en moi. J'ai une réponse qui frustrerait tous les chrétiens de la terre. Seigneur, donne-moi les 12 points de ma destinée. Ok, crois en moi. T'es pas plus précis? Si, crois en moi. Verset 30. Sur quoi ils lui dirent, mais quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi? Quel signe? Donne-nous une preuve. Donne-nous une preuve. Et ils disent, pour que nous puissions croire en toi, que vas-tu faire? Pendant qu'ils traversaient le désert, nos ancêtres mangeaient la manne. Comme le dit ce texte de l'Écriture, il leur donna à manger un pain qui venait du ciel. Mais Jésus leur répondit, vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous a donné le pain du ciel, le vrai pain. Il dit en fait, ce n'est pas la loi qui t'a nourri de façon miraculeuse. C'est le cœur de mon Père qui s'est servi de la loi pour te montrer qui j'étais. Eux, ils croyaient que c'était Moïse, grâce aux 10 commandements, à sa loi, à son côté de prophète, qu'il avait permis d'avoir la manne. Christ dit, non, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas la loi, ce n'est pas les rituels que tu accomplis qui te donnent la manne. C'est mon Père qui est dans les cieux. Il a fait ça pour te montrer autre chose. Suivez-moi quelques secondes. Essayez-moi ce soir. Jésus dit, ah ouais, vous voulez parler de pain, de manne? Mais c'est moi, le vrai pain. Il dit ici, verset 33, car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et là, il commence à les intéresser. Les disciples disent, la foule lui dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Ils comprennent que là, il y a un truc qui se passe. Seigneur, je suis intrigué, donne-moi de ce pain-là. Qui me rend tout le temps la vie, tout le temps vivant, tout le temps rempli de vie, je veux ce pain-là. Jésus dit au verset 35, il dit, c'est moi qui suis le pain qui donne la vie. C'est moi le pain. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. Et là, je suis comme ces gens-là, je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire ce soir? Les hommes et les femmes qui étaient autour de Christ ce soir-là disent, ce jour-là, disent à Jésus, Jésus, donne-nous une liste de choses à faire. Nous voulons savoir ce qu'il faut faire. Et peut-être que ce soir, tu es comme eux, tu as tendance à calquer ta vie chrétienne sur une liste des choses à faire en pensant peut-être que cette liste de tâches-là fera de toi un vrai disciple manifestant la puissance du roi des rois. Mais pourtant, ta vie chrétienne, peut-être que ce soir, devient un peu compliquée. Parce que plus tu essayes d'avoir une liste de choses à faire, plus cette liste s'agrandit. Avez-vous fréquenté des religieux? Les religieux ont tendance à toujours rajouter quelque chose à faire. Tu fais ça et disent, c'est pas suffisant. Maintenant que tu as fait ça, fais aussi ça. Et tu fais les deux et dis, c'est pas suffisant. Et après, et du coup, les religions augmentent le nombre de tâches à faire pour essayer de plaire à Dieu. Et Christ dit simplement, crois en moi. Je suis le pain de vie. Écoutez bien ça. Nous cherchons une liste des tâches à accomplir. Nous cherchons une liste de principes. Nous cherchons une liste de signes. Christ, lui, nous offre sa personne. Nous, on cherche une religion avec Dieu où, ok, j'ai ça à faire. Et Dieu, lui, nous offre sa personne. Dieu, aie confiance, crois en moi. Nous cherchons un lieu à atteindre, une tâche à accomplir. Jésus dit, je t'offre une vie avec moi. Les gens cherchent souvent ce genre de livre de tâches à accomplir. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous savez que Jean 6 est le troisième plus grand chapitre de la parole de Dieu. Le premier, c'est Psaume 119. Le deuxième, c'est Luc chapitre 1, 80 versets. Et après, il y a Jean 6 qui fait 70 versets. Et si vous lisez la parole de Dieu, Jean 6 est le plus long message de Christ prêché, enregistré sur la terre. C'est le plus long message. C'est comme si Christ tout d'un coup se dit, là, c'est trop important, je vais prendre le temps d'expliquer ce qui se passe. Et la plupart des hommes de Dieu qui ont lu ce passage et l'étudié, ils vous le diront, ce passage-là s'appelle la transition. Il y a un shift qui se passe. Écoutez bien ça. Avant ce passage-là, tous les Juifs vivaient selon une liste de règles. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. La Torah, toutes les règles, toutes les lois, les rituels. Lave-toi les mains avant de manger, fais ceci avant de... Bref, plein de choses, les 10 commandements. Et ils viennent voir Jésus en disant, tu sais, Seigneur, Jésus, nous voyons le miraculeux. Nous voyons que toi, ce que tu vis, c'est miraculeux. Donne-nous la recette pour vivre le miraculeux. Ce que nous voulons faire, Seigneur, c'est une liste de 12, 15, 20 points. Nous savons comment faire ces choses-là. C'est régulier, c'est carré, c'est facile. Donne-moi la liste pour vivre le miraculeux. Et Jésus dit, pour vivre le miraculeux, il faut tout simplement dépendre totalement de moi. Et c'est le genre de message que l'Église a oublié, parce que si l'Église vivait ce message, il y aurait continuellement des miracles, continuellement des signes, continuellement des prodiges. On n'aurait pas le temps de faire des débats sur des petites choses, car celui qui est rempli du pain de vie, donne la vie, est rempli de vie, glorifie la vie, célèbre la vie, il n'a pas le temps de se prendre la tête sur est-ce que j'ai fait ça comme ça ou ça comme si. Celui qui a mangé le pain de vie n'a pas le temps de se comparer aux autres, il n'a que le temps de donner la vie aux autres. Jésus nous dit, ok, je ne suis pas intéressé par ta performance et les choses que tu fais pour essayer d'atteindre le miraculeux. Jésus dit, la porte pour le miraculeux, c'est moi. Alors que les disciples sont en train d'être choqués par ce qu'il dit, au verset 50, je vais lire pour vous, il dit, mais c'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Verset 51. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. Et là, il faut comprendre la chose. Là, les disciples disent, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Jésus veut tellement être sûr que les Juifs et vous et moi ce soir, nous comprenions bien ce simple message qui peut changer votre vie. Il dit, il faut que tu manges mon corps. Là, les Juifs commencent à se dire, au verset 52, ils disent, entre eux, ils discutent, ils disent, comment cet homme pourrait-il nous donner son corps à manger? Et Jésus-Christ, qui est un fin stratège, très sage, il enfonce le clou. Il dit oui, au verset 53, il dit, oui, oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. Déjà les disciples viennent le voir en disant, écoute, donne-nous une liste des choses à faire. Lui, il dit, crois en moi. Et après, il explique c'est quoi croire en lui. Il dit, croire en moi, c'est manger ma chair et boire mon sang. Là, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me choque. Si je ne comprends pas dans l'esprit, ça me choque. Je dis, qu'est-ce que Jésus raconte là? D'ailleurs, si vous lisez Jean 6, 66, Jean 6, 66, c'est un verset intéressant. Dans la préscience de Dieu, ce soit tombé sur Jean 6, 66, qui dit, à partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Ça nous parle, ce genre de chrétien qui, tant que c'est une liste de tâches à faire, venir à l'église le vendredi soir, donner son offrande, faire un ou deux chants, donner sa dîme, prier pour un quelqu'un de temps en temps, c'est cool, c'est une liste, j'ai fait. Mais quand il faut commencer à ingérer Christ, à digérer Christ, à manger Christ et à devenir avec lui qu'une seule personne, à faire communion avec lui, à devenir tellement proche de lui que les gens disent tu es en Christ, je suis en toi, tu es en moi, je vis par toi, tu vis par moi, nous sommes tous les deux ensemble. Là c'est un total différence, un niveau différent où il y a le chrétien qui se dit c'est trop, non c'est trop pour moi, je m'en vais, et ces chrétiens là ont dit non, c'est bon Jésus, là je te suis plus, manger ton sang, manger ton corps, boire ton sang, non. Au verset 57, il dit « Le Père qui m'a envoyé a la vie en lui-même et c'est lui qui me fait vivre. » Écoutez bien ça. « Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. » Dans la culture juive de l'époque, en ce moment précis où Jésus parle à ses pharisiens, disciples et amis, nous oublions peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas de four micro-ondes, j'ai vérifié. Il n'y avait pas de four à chaleur tournante, Seb, j'ai vérifié. Il n'y avait pas de four comme aujourd'hui, j'ai vérifié. Il n'y avait pas la banette. Il n'y avait pas tout ça. Nous pensons pain de vie, on pense passer un instant à la boulangerie, prendre le pain, manger le pain et partir. Nous, on peut manger du pain dans un aéroport, on peut manger du pain dans sa station de service, on mange du pain n'importe où. Le pain, pour nous, aujourd'hui, c'est un bien de consommation rapide. On prend le pain, on le mange, c'est fini. Mais à l'époque des Juifs, le peuple auquel Dieu parle ce soir, il dit, pour eux, le pain, il fallait des jours de préparation, un contrôle spécifique, il fallait que la cuisson soit parfaite avec des pierres chaudes et tout, c'était compliqué à le préparer, mais surtout l'art de le manger était radicalement différent. À l'époque, écoutez bien ça, quand les Juifs mangeaient le pain, ils s'allongeaient, ils s'asseyaient ensemble et discutaient, ils parlaient, c'était un moment de famille et de fête, un moment où le temps s'arrêtait. Donc quand Jésus leur dit mangez le pain de vie, ils comprennent automatiquement ce que Dieu veut dire. Ils comprennent que Dieu est en train de leur dire « Vous devez passer du temps avec moi, m'ingérer dans votre système, m'intégrer en vous, me mettre dans votre vie. Il faut que je prenne toute la place. Il faut que je vienne en vous et que tu consumes ce que je suis et que je te consume toi. » Je ne sais pas si vous comprenez, c'est la nourriture que je prends devient une partie intégrante de moi. Il fallait du temps. Nous, c'est un truc facile, rapide, mais eux, non. Eux, le pain de vie, il fallait prendre le temps. Cela me prouve soit une chose très importante. Jésus est en train de dire à son peuple, si tu veux faire l'œuvre de Dieu, tu dois dépendre totalement de moi. Et pour dépendre totalement de moi, il faut que tu me prennes comme nourriture. Il faut que tu manges Jésus. Je sais, c'est une phrase qui fait peur. Manger Jésus. Vous savez, nous cherchons tellement à être pragmatiques. Parfois, et j'aime bien être pragmatique, mais parfois, l'Église, on veut tellement être pragmatique. Et je vous garantis que ce soir, c'est pour beaucoup d'entre vous le cas, que vous avez oublié la romance avec Jésus. Quand je faisais la cour à Élodie, j'avais pas un bouquin avec 37 étapes pour atteindre le cœur d'Élodie. Étape 1, lui faire un clin d'œil. Ça c'est fait. Étape 2, payer son père. Ça c'est fait. Étape 3, repayer son père. Ça c'est fait. Et encore. Étape 4, l'aider à faire le mur. Ça c'est fait. Non. Et nous abordons parfois notre vie en oubliant cette passion que Christ est en train de dire. Ce qu'il veut dire au peuple ce soir, il veut dire, mais mange-moi. Allons passer du temps ensemble. Quand je suis avec toi, quand tu es avec moi, c'est un truc de fou. C'est une romance, une tournée. tornade, c'est une passion qui prend ta vie entière. Tu me prends dans ta vie, je rentre dans ton cœur, ta vie est transformée, je te nourris, je suis ta nourriture, je te comble, je te remplis. C'est pas juste bon Seigneur, voici ce qu'il faut faire, hein, oublie tout ça, prends du temps avec Jésus, mange sa vie, mange son corps, bois son sang, laisse-le devenir partie intégrante de ta vie. Faire confiance à Dieu, c'est quoi? C'est tout simplement comprendre. Je dois manger le pain de vie. Je vous lis ce soir deux passages pour conclure. Et vous allez voir comment c'est très profond. Très simple, mais très profond. Dans Marc 7, verset 27. Le contexte est important, mais ce n'est pas le point central ce soir. Le contexte, c'est cette femme qui vient et qui demande à Jésus de guérir sa fille. Et Jésus lui répond, en verset 27, il lui dit « Laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison, car il ne serait pas convenable de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Le pain des enfants. Jésus est en train de dire que sa vie, son ministère, le royaume qui manifeste, il appelle cela le pain des enfants. Lequel d'entre vous ou laquelle d'entre vous avait déjà été un enfant? Toi non? Ok. Lequel d'entre vous est resté un enfant? Ok. Moi, j'ai deux petites filles, elles ont grandi maintenant. Mais même à l'époque où elles étaient très très jeunes, elles commençaient à manger, je n'ai jamais vu Lisa manger par l'oreille. Certains ont essayé, ça nourrit pas. J'ai jamais vu Anna manger par les yeux. Je vais voir si ça fonctionne. Non. De façon instinctive, les enfants amènent la nourriture à leur bouche. De façon instinctive, les enfants amènent la nourriture à leur bouche. Écoutez bien ça. Et Christ, ce soir, il dit le pain des enfants. C'est sa vie, son évangile, son royaume, sa présence. C'est lui, un enfant de Dieu, instinctivement mange la présence de Christ. Il n'a pas besoin de compliquer les choses. Quel est le but de mon message ce soir? Le but de mon message, c'est de vous dire que quand tu comprends que Christ est le pain de vie, tu comprends alors que tu dois rester comme un enfant. Et que si tu commences à compliquer trop les choses, tu ne te nourriras pas du pain des enfants. Si je complique trop la vie chrétienne, avec des choses à faire et pas faire, et c'est compliqué. Je tue la romance avec Christ. Les meilleurs moments avec Elodie, entre Elodie et moi, ou les meilleurs moments entre mes filles et moi, c'est lorsque les choses viennent de façon spontanée, que ça se passe tout seul, qu'il y a un moment de vie. Et j'ai vu des gens, et ça me choque souvent, je vois des gens qui n'en vont jamais en vacances parce qu'ils prennent 45 ans pour préparer les vacances. C'est compliqué. Et c'est bien de planifier les vacances, c'est bien de dire on va en vacances, j'emmène ça, ça, ça. Mais si tu stresses avant les vacances, tu stresses pendant les vacances, tu stresses après les vacances, t'as pas pris de vacances. Il y a des gens qui stressent avant d'aller à l'église, qui stressent pendant l'église, qui stressent après l'église. Il y a des gens qui stressent avant d'aller prier, qui stressent pendant qu'ils prient, qui stressent après en priant en disant « Est-ce que je vais entendre Dieu? Est-ce que j'entends Dieu? Est-ce que j'ai entendu Dieu ?» Et tu passes 5 heures, 6 heures, 10 ans de prière et tu te demandes toujours si c'est vraiment Dieu ou c'est toi qui as créé le Dieu que tu penses, crois. Eh oh, relax. La maman me disait « Bruno, comment tu sais, comment tu fais pour avoir confiance ?» C'est très simple, pour avoir confiance, tu as confiance. Non mais sérieusement, essaie d'expliquer à quelqu'un comment avoir confiance en 10 étapes. Tu rigoles ou quoi? La confiance, tu l'as ou tu ne l'as pas. Tu sens ça, c'est comme l'amour. Je ne veux pas dire ce soir aux plus jeunes, écoutez, venez samedi matin, on donne un cours pour savoir comment être amoureux. C'est pas possible, c'est quelque chose d'intrinsèque à nous-mêmes. C'est nature que Dieu a mis en nous. J'aime, je fais confiance. Je vis, c'est une vie qui se dégage. Ce soir, ce que Christ veut dire, c'est qu'il faut arrêter, si c'est ton cas, de vivre une vie comme les juifs de l'époque en disant « Que dois-je faire pour faire l'œuvre de Dieu ?» Jésus dit « Viens vivre avec moi, fais-moi confiance, allons faire une romance ensemble, allons, viens manger ma vie, viens ingérer ce que je suis, prends ma nature, sois un enfant. » Et Marc 10, un peu plus loin, vous allez voir, c'est l'une des rares fois où Jésus-Christ a vraiment été en colère. Les deux fois où Jésus m'a choqué dans sa vie chrétienne, dans sa vie sur terre, pardon. Premièrement, c'est quand Jésus était tellement en colère avec les marchands dans le temple que Jésus lui-même, avant d'aller les fouetter, il s'est assis, il a lui-même construit lui-même son fouet. J'imagine Jésus assis en train de faire lui-même le fouet. C'est beau l'amour de Christ, hein ? Oh, Dieu est amour, il faut laisser les gens dire n'importe quoi, il faut rien dire, tu comprends, Dieu est amour, laisse-les faire ce qu'ils veulent. Ouais ? Tu rigoles ou quoi ? Si c'est en dehors devant le Dieu, je m'assois, je construis mon fouet, Stéphane vient m'aider, on fait un beau chabouc. La deuxième fois où Christ est vraiment en colère, c'est là, dans Marc 10, verset 14. Non, Marc, c'est pas 10. J'ai trompé. C'est dans Marc. Oui, non, Marc, ça, c'est Marc, ouais. Pardon. Oui, c'est ça même. Tout le monde dit c'est ça même. Jésus le vit et s'en indigna parce que les disciples ne voulaient pas que les enfants s'approchent de Christ. Il dit, Seigneur, il te dérange là, les enfants, il te dérange. Et Christ dit ici, laissez donc les petits-enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui le leur ressemblent. La raison pour laquelle nombreux sont les chrétiens qui ne manifestent pas le royaume de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que seuls les enfants de Dieu peuvent manger le pain de vie. Et pour manger le pain de vie, il ne faut pas se lancer dans une liste des choses à faire et à ne pas faire. Il faut considérer Christ dans toute sa personne, prendre le pain de vie, le manger. C'est cette nourriture qui est réservée aux enfants de Christ et qui maintiennent leur cœur comme un enfant. Et Christ dit ici, car le royaume appartient aux enfants. Pas à ceux qui font des enfantillages. Pas au bébé cadom. Ce que j'aime chez l'enfant en général, écoutez bien ça, et moi je suis resté un grand enfant, c'est que les enfants, surtout Anna, ma petite fille, tout l'éblouit. Waouh ! Ouais ! Cette passion d'être surprise à nouveau. Mais si tu es...
Oh, tu sais, moi je suis un chrétien mature. Plus rien me surprend. Quand je chante, tellement je suis profond, je chante dans mon esprit, dans mon cœur, au plus profond de mon âme. Quand t'es jeune comme ça, tu vas danser, bouger, crier. Mais moi, qui suis mature, c'est intérieur.
Et à côté, t'as le gars, un petit enfant, il est là, il adore Jésus. Dieu lui dit, va à gauche, il va à gauche, va à droite, il va à droite. Suis-moi, il suit. Mange ça, il mange ça. Crie, crie.
Moi, je suis un enfant mature. Je ne crie pas. La vie chrétienne, mon fils, tu seras quand tu seras plus grand. Point 1, point 2, point 3, point 4. À 5, tu recommences. Point 1, point...
Et tout d'un coup, il n'y a plus ce côté enfant. Dans ma vie, j'ai plusieurs amis, mais j'ai un ami, peut-être de les deux avec qui ils vont se reconnaître. On fait vraiment les fous. C'est que tout d'un coup, c'est ce moment-là qui donne. Je ne parle pas du manque de respect, d'accord ? Je finirai dessus. Ce n'est pas un manque de respect. Je vous lance un défi ce soir. Comment est ta relation avec Dieu ? Est-ce que tu as un enfant, vraiment ? Tu es resté un enfant aussi ? Parce que sinon, c'est molle, hein ? Mais tu ne vas pas avoir accès au royaume. Et maman, je priais, Seigneur, tu vois, écoute, je vous promets, du Seigneur, tu vois, maintenant, j'aurai bientôt 20 ans de vie chrétienne. J'ai fait l'école biblique de Réma, j'ai fait l'école biblique de Marc Brennkamp, j'ai fait l'école biblique d'Harold Weiss, j'ai fait l'école biblique de Steve. Tous les ans, je réécoute Steve. Seigneur, là, je suis blindé, je suis comme presque un expert. Je mérite ça, Seigneur, comme grâce. Dieu me dit, le royaume de Dieu n'est pas réservé aux experts, il est réservé aux enfants. Ça veut dire quoi ? Quand tu rentres dans la présence de Dieu en ce moment, est-ce que tu comprends que ton papa, ton Père céleste, est fou amoureux de toi ? Si vous lisez Jésus, surtout dans l'évangile de Marc et l'évangile de Jean, vous allez vous rendre compte que Jésus est toujours en train de dire « Mon Père ceci, et mon Père cela, et mon Père m'a dit, et mon Père veut que, et mon Père m'a dit non, et mon Père m'a dit oui. » Tout est en rapport avec son Père, c'est, il restait un enfant. Je suis ton enfant. Et c'est ça qui donne accès au royaume. Et quand il nous apprend à prier, il dit « Notre Père qui est aux cieux, papa, fils, enfant. » Il ne dit pas « Notre Dieu ». Il ne dit pas le grand je suis, il aurait pu le dire. Il dit non, papa qui est dans les cieux, que ton royaume vienne, parce que le royaume est une affaire de famille. Le royaume de Dieu est là ce soir. Et Dieu veut se manifester dans ta famille, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton couple. Mais est-ce que tu te rends compte que tu es un enfant de Dieu? Et les enfants se nourrissent du pain de vie. Les pharisiens n'étaient pas des enfants de Dieu. Ils n'étaient même pas des enfants de cœur. Ils étaient durs et méchants et rigides. Ils connaissaient la Bible, mais pas le cœur de Dieu. La Bible, comprenez, la loi. C'est pour ça ce soir que je vous prêche ce simple message pour vous ramener à une réalité. Semaine dernière, on a parlé du poids de l'adoration qui est l'évangile. Et c'est quoi l'évangile ? L'évangile, c'est un papa qui envoie son fils aller chercher ses autres frères et sœurs pour se rassembler pour l'éternité et avoir une vie de famille extraordinaire. Quand une église vit comme une famille, le royaume se manifestera avec puissance. C'est pour cela que je vous encourage. Dans une famille, qui est-ce qui est membre d'une famille sur terre? Avez-vous déjà eu une petite altercation momentanée avec votre frère ou votre sœur? Steve? Est-ce que dès l'instant où tu as eu un problème avec ton frère, il a cessé d'être ton frère? Non? La raison pour laquelle la France ne connaît pas encore la manifestation du royaume de Dieu, c'est parce que nous les chrétiens et les différentes églises locales n'ont pas compris que nous sommes tous d'une même famille. Dès l'instant où Jésus-Christ devient le Seigneur et le Sauveur de quelqu'un, il est ton frère. Et le même sang royal qui coule dans tes veines coule dans ses veines. Et ce soir, je conclue en vous disant ça. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas instinctivement, de façon naturelle, vouloir manger le pain de vie. Pour manger le pain de vie, cela veut dire je prends du temps pour dépendre de Dieu. Rappelez-vous, manger le pain de vie signifie croire en Jésus, pas de façon intellectuelle. Toute ton âme, toute ta pensée, de tout ton cœur, tout ton corps, mange sa présence. Quand je vais prier, ce n'est pas une chose à faire. Bon, allez, je vais prier. Non. J'ai besoin de passer du temps avec mon Père. Et je veux manger le pain de vie. Et Jésus ce soir dit à l'église, si tu es toujours dans cette vie, quelle œuvre dois-je accomplir pour faire ton plan, tu te trompes de direction. Ce Christ va te dire tout simplement, dépends de moi. Ça veut dire, vis continuellement avec moi. Prends ma main. Viens sur mes épaules si tu veux. Passe du temps avec moi. Allons vivre notre vie ensemble, dit Dieu. Je t'appelle pour une romance. Je frappe à la porte de ton cœur. Je veux manger avec toi, souper avec toi, dîner avec toi. Je veux que ta vie soit inondée du miraculeux. Si tu me laisses, remplir ton cœur, ton âme, ta vie, ta famille, ton église. Je te remplirai de mon naturel qui est toujours surnaturel. En soir, je vous laisserai partir avec cette pensée ce soir. J'encourage à vous rendre compte que vous êtes un enfant de Dieu. Si ton cœur appartient à Jésus, tu es un enfant de Dieu. Et alors que toutes les têtes sont baissées, s'il vous plaît, tous les yeux fermés quelques minutes, quelques secondes, je vais vraiment vous donner une chance ce soir.